on avait un grand-père qui avait mal au foie, il y aura des répercussions. Alors il faudra faire attention. Et ainsi de suite, notre corps humain qui fait partie de notre nature, vous voyez, et qui fait comprendre que cette autonomie n'est pas parfaite. Elle est limitée. Il y a une limite, il y a des limites en nous. On y reviendra, ces limites. Il y a des limites, et ces limites, nous les saisissons très fort à l'égard de notre corps humain. Nous sommes limités dans nos efforts, nous sommes limités dans nos luttes. Il y a des limites en nous. Et cette limite, la première que nous portons, ben c'est notre corps. Il y a une connaissance du corps que nous devons avoir pour voir tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous sommes capables de faire, et ce qu'en même temps, nous sommes limités. Et notre corps nous montre qu'il y a un devenir en nous, qui est le devenir le plus grand qui soit. L'homme et l'animal, ou si vous voulez, la réalité, qui a le plus changé, le plus capable de changement, depuis le premier moment de la conception jusqu'à la mort. Ça, c'est extraordinaire. Et ça fait partie de la dimension de l'homme. Autrement dit, c'est l'être le plus capable d'adaptation. Vous savez bien que ceux qui ont été prisonniers pendant le temps de la guerre l'ont dit. Ce que nous avons subi, un animal n'aurait pas résisté. Et nous avons tenu grâce à notre esprit. Le corps est porté par l'esprit. Ça, c'est bien évident. Mais l'esprit doit respecter le corps. Et nous devons comprendre qu'en nous, âme spirituelle et corps sont unis d'une manière substantielle. Il y a une unité d'être en nous, pas de dualité. Hein. La dualité, c'est justement les idéologies qui font ça. Il y a une unité profonde du corps et de l'âme. Unité d'être substantiel. Nous sommes un être substantiel. Notre être, c'est notre corps et notre âme. Mais nous avons alors vis-à-vis du corps, vis-à-vis de notre corps de vivant, nous avons une responsabilité. C'est notre âme qui porte notre corps. Et notre corps porte notre âme de temps en temps. Quand nous nous reposons, quand nous nous détendons, c'est notre corps qui porte notre âme et qui accepte de le porter. Parce que c'est mutuel, mais il y a l'unité substantielle. Alors je crois, je souligne ça, nota bene, hein, de temps en temps je fais des petites remarques parce que c'est intéressant de les faire. La distinction de l'âme et du corps, vous savez très bien qu'elle est battue en brèche aujourd'hui dans certains milieux philosophiques et ecclésiastiques. Et les répercussions sont tout de suite. Eh bien, je crois qu'il faut à tout prix maintenir la distinction de l'âme et du corps. Face à ces distinctions qu'on dit aujourd'hui, je dis ça en nota bene, parce que c'est important. Je crois qu'on ne peut pas comprendre la personne humaine si on ne fait pas la distinction des deux. On ne peut pas comprendre. Il y a quelque chose là de très fondamental en nous. Je dis distinction et pas séparation. Alors, on dit, en faisant court, la distinction de l'âme et du corps est une distinction de philosophie grecque. Et la philosophie grecque, c'est de la philosophie. Nous sommes des chrétiens. Il faut supprimer cette anthropologie. C'est la vieille anthropologie grecque. Il faut maintenant que nous tombions dans une anthropologie qui soit directement de la révélation. Bon, ça, c'est la première objection. Deuxième objection, c'est dans la perspective de la féminologie d'aujourd'hui, Merleau-Ponty, par exemple, disait ouvertement pas de distinction de la vie du corps. La distinction de l'âme et du corps, c'est une vieille chose ancienne, maintenant c'est supprimé. On doit tout regarder au niveau de la conscience. Le problème est revenu à propos de l'avortement, vous savez. Parce qu'on a dit, mais non, ce n'est pas une personne humaine. La personne humaine se définit par la conscience. Non, la personne humaine ne se définit pas par la conscience, en premier lieu. Elle se définit par l'âme et le corps. C'est pour ça que c'est très important. Ce n'est pas du tout quelque chose de secondaire. C'est quelque chose de très fondamental pour avoir une vision qui n'est plus d'ordre purement psychologique, mais d'ordre réel, le réalisme de regarder que nous avons une âme et un corps. Alors, qu'est-ce qu'il faut répondre à ces deux objections? Parce que c'est important, elles sont là constantes. À l'objection proprement théologique, si vous voulez, dans les milieux chrétiens, il faut répondre que la distinction d'âme et du corps n'est pas grecque. La distinction de l'âme et du corps vient de l'âme. Et maintenant, c'est absolument prouvé. La distinction de l'âme et du corps, elle vient de l'âme, c'est une distinction qui est d'ordre de tradition religieuse. Alors, dès qu'on dit que ça vient de l'âme, tout le monde est à genoux. Il ne faut jamais l'oublier. Il faut dire ça, parce que la Grèce est trop intelligente, alors on la rejette. Mais l'Inde, c'est merveilleux. Alors, la distinction de l'âme et du corps est une distinction que Platon a reçue de l'Inde. Il ne faut pas l'oublier. Et que Platon a introduit en philosophie grecque. Il l'a introduit à sa manière. Et Aristote l'a reprise. Et saint Thomas l'a repris. Donc, disons bien que ce n'est pas une distinction grecque. Un très bon historien de la philosophie grecque, était très honnête, Breyé, dit ouvertement, à propos des stoïciens, les stoïciens ont rejeté la distinction de l'âme et du corps. Breyé dit textuellement, avec les stoïciens, on est revenu dans la grande tradition grecque de la non-distinction de l'âme et du corps. Ça, j'ai trouvé ça très beau. Il le disait bien avant toutes les discussions qu'on dit aujourd'hui. Donc, il l'a dit avec une très grande objectivité, ce qui est très vrai. Parce que les stoïciens ne distinguent plus l'âme et du corps, parce que pour les stoïciens, tout est corps. Tout est mobile, tout est corps. Tout est le souffle, et donc tout est corps. Alors, il faut maintenir la distinction de l'âme et du corps, tout simplement, je ne vais pas ici vous le montrer au point de vue philosophique, mais il suffit tout simplement de réfléchir sur la complexité et l'unité du vivant. La complexité, les biologistes sont là pour nous la montrer, et l'unité aussi, c'est ça qui est très curieux. Les progrès de la génétique d'aujourd'hui nous montrent de plus en plus la complexité invraisemblable du corps de l'homme, cathédrale de molécules, c'est faut pas l'oublier, c'est une chose extraordinaire le corps de l'homme, chose merveilleuse. Et en même temps l'unité, puisque le chiffre de l'homme est donné dès le premier instant de la conception. Et donc il y a une unité fondamentale. Et bien c'est dès que je réfléchis sur cette complexité et cette unité, et que je veux comprendre d'où vient cette complexité et cette unité, que je pose l'âme source d'unité et le corps source de complexité. C'est assez facile à comprendre. C'est assez facile à comprendre que de fait, je ne peux pas comprendre ce que c'est que la substance, hein, source de mon autonomie. Il n'y a pas d'autonomie dans la complexité. Il y a une autonomie dans l'unité. Et c'est qu'il y a une unité profonde dans l'homme qui lui vient de son âme spirituelle. Et l'âme spirituelle est capable d'assumer le corps, de lui donner toute sa vitalité, toute sa possibilité. Donc vous voyez qu'il y a là un problème très important et qui est fondamental, qui est le premier problème de la personne. Je dis bien que c'est le premier problème de la personne au niveau philosophique, c'est de comprendre qu'il y a en nous une complexité très radicale, celle du corps. Par où nous sommes partis de l'univers. Le corps nous fait partie de l'univers. Et parce que nous sommes partis de l'univers, nous pâtissons à l'égard de cet univers. La partie pâtit toujours à l'égard du tout. N'est-ce pas? Toujours, ça ne peut pas être autrement. Et l'univers, c'est le tout. Et nous faisons partie de cet univers. Il y a en nous une corruptibilité comme il y a en nous une croissance. Il y a une croissance étonnante, l'être humain est l'être dont la croissance est la plus vertigineuse. Et en même temps, il y a un haut plateau qui dure un certain temps, puis après il y a une descente. N'est-ce pas ? Ce que nous appelons le troisième âge, c'est-à-dire ça dégringole, et ça peut dégringoler plus ou moins vite. N'est-ce pas ? Mais enfin, ça dégringole. Donc il y a en nous un devenir. Par où on est parti de l'univers et par où on est dépendant de cet univers. On est dépendant. Ça fait, vous voyez, je souligne progressivement toutes les dimensions de la personne humaine. Il y aura la partie, ça c'est très important. L'homme est une partie d'un tout. C'est ce qu'il maintient dans l'humilité. Il ne peut pas être totalement autonome. Il y a une autonomie, mais il y a des limites à l'autonomie. Et les limites de l'autonomie, c'est que je suis parti par mon corps. Mais il y a en moi cette âme spirituelle par où je suis capable d'une certaine autonomie et d'une certaine indépendance. L'esprit est source d'autonomie et d'indépendance. et l'esprit quelque chose de fondamental en moi. Substantiellement, ma substance, donc ce qu'il y a de radical en moi, substance, prenez radical, hein, ce qu'il y a de fondamental en moi, ce qu'il y a de fondamental en moi implique l'esprit. Donc il y aura tout de suite en moi, et je vois que là, la personne humaine, elle est complexe, c'est pas simple. Elle implique une autonomie, elle implique aussi une limite. Par où je suis dépendant et par où je suis dans un certain mouvement. Première constatation. Deuxième constatation au plan philosophique. Cet esprit qui est en moi implique un dépassement. S'il y a l'autonomie, il y a aussi un dépassement. La personne humaine, c'est celle qui toujours va au-devant, vers quelque chose qui est son bien. L'esprit est capable de découvrir qu'il y a un bien qui dépasse l'homme. Autrement dit, l'homme, pour être parfaitement une personne, doit se dépasser. Il y a un dépassement. Un être humain qui ne se déplace plus, qui plafonne, comme on dit, un être humain qui ne se déplace plus et qui n'y a plus ce dépassement en lui, eh bien, nécessairement est en perte de vitesse. Il est dans l'attitude réflexive. Vous voyez, cette attitude réflexive qui est terrible, hein, parce que l'attitude réflexive, c'est l'attitude de toutes les idéologies d'aujourd'hui. Toutes les idéologies sont dans une attitude réflexive. Autre chose est l'autonomie, autre chose est l'attitude réflexive. Cette attitude réflexive, dont je suis capable, je peux faire une autocritique de ce que je suis, hein, tout le temps. Mais quand l'autocritique devient quelque chose d'absolu, l'autocritique vous paralyse. Il y a des gens qui, dans l'autocritique, sont complètement paralysés. Alors à ce moment-là, c'est justement que l'attitude réflexive est trop forte. Et elle n'est plus compensée par quelque chose qui est très important, qui est le dépassement. L'être humain implique un dépassement, et un dépassement constant de lui-même, par le point de vue du bien. Quel est le bien de l'homme? C'est la personne humaine. Mon premier bien, c'est d'aimer une personne. La personne humaine ne peut être personne humaine que dans la rencontre avec une autre personne. C'est-à-dire dans un amour d'amitié. Nous y reviendrons, parce que ça nous verrons, mais c'est très important de le souligner maintenant. Je prends amour d'amitié, c'est-à-dire l'amour au sens très fort, l'amour le plus spirituel, qui fait le dépassement. Le premier dépassement, il est dans l'ordre de l'amour. C'est là où la personne humaine découvre sa finalité. Une personne humaine n'existe que quand elle est finalisée. Une personne humaine qui ne regarde que son autonomie et qui est dans attitude de réflexion sur son autonomie n'est pas une véritable personne humaine. C'est quelque chose d'essentiel à la personne humaine. La personne humaine n'est personne humaine que quand elle est finalisée. Vous voyez tout de suite, hein, c'est ce que la psychologie ne voyait pas. La psychologie est incapable de nous montrer la finalité de l'homme. Ça va très loin, ça. C'est très important. Parce que quand vous vivez uniquement sur des tests psychologiques ou sociologiques, vous voyez alors tous les dégâts que ça fait. Parce qu'à ce moment-là, vous ne comprenez plus ce que c'est que l'homme. L'homme ne peut être compris que dans la mesure où l'homme se dépasse lui-même. Dans la mesure où l'homme va au-delà de l'homme. Vous voyez, c'est ce qu'il y a de vrai dans le surhomme. C'est pas dit de la même manière, mais c'est ça. L'homme n'est homme que quand il se dépasse. C'est-à-dire quand il est capable d'aimer un autre. D'aimer un autre, de le comprendre, de le respecter et de l'aimer. Il y a donc cette dimension très importante à saisir, c'est le dépassement dans l'ordre de l'amour d'amitié. Alors, nous verrons ce que c'est que cet amour d'amitié. Nous verrons, ça fait partie de le point de vue de l'agir, hein, je vous le dis tout de suite pour que nous puissions comprendre. L'adgérer est à base, plus exactement, il se comprend à partir de l'amour d'amitié. C'est pour ça que c'est si important. Nous ne pouvons aimer notre bien, une personne humaine, que dans la mesure où nous la connaissons. Ah, il y a tout le problème de la connaissance. Alors ici, je retrouve le problème de l'intelligence. Volonté et intelligence. La volonté et l'intelligence font partie essentielle de ce que c'est que la personne humaine. Une personne humaine n'est personne humaine que dans la mesure où elle se dépasse et qu'elle veut se dépasser. Parce que l'amour spirituel implique cette volonté. Je veux aimer. La volonté d'aimer, c'est l'amour. Ça, nous le verrons. Hein. Je le pose maintenant comme une pierre d'attente. Et cette connaissance à l'intérieur de l'amour d'amitié est absolument nécessaire. Donc nous avons là ces diverses dimensions. Nous avons le dépassement dans l'ordre de l'amour. Et puis nous avons l'intelligence. C'est par là que nous touchons qu'il y a dans l'intelligence, dans la personne humaine, quelque chose d'infini. Pas de limite du côté de l'amour, pas de limite du côté de l'intelligence. La personne humaine porte en elle-même quelque chose d'infini. C'est aussi très important. Vous voyez, elle est limitée par son corps, mais elle a en elle-même, ça fait partie de ses nostalgies. Hein, ça fait partie de ses nostalgies. Il y a en elle-même une nostalgie incessante d'aller plus loin. Et cette nostalgie incessante d'aller plus loin fait partie essentielle de la personne humaine. Arrêter ça, eh bien, c'est quelque chose qui fait que la personne humaine ne sera plus personne humaine. C'est extraordinaire. La personne qui est satisfaite, hein, parfaitement satisfaite, elle n'est plus une personne. Elle se détruit. Exiger, philosophiquement, c'est-à-dire dans l'analyse même que je fais de ce que représente la personne humaine, je vois que la personne humaine, eh bien, elle implique cet amour et elle implique cette intelligence, cette connaissance, ce développement de la connaissance. Je peux développer cette connaissance. Alors, la vraie connaissance, c'est à l'égard d'une personne humaine. Hein. Mais il y a toute espèce de développement de la connaissance. C'est là où je mettrai, hein, comprenez bien, c'est là où je mettrai le point de vue non seulement de l'intelligence à l'égard de la personne que j'aime, cette connaissance affective. Et je mettrai aussi toutes les connaissances philosophiques qui sont en vue, toutes les connaissances scientifiques. Dans les connaissances scientifiques, les connaissances mathématiques, toute une série de connaissances. Tout le développement de la science, tout le développement de l'intelligence fait partie du développement de la personne humaine. Et c'est essentiel, c'est pas du tout la recherche de la vérité, autrement dit, parce que en définitive c'est ça, c'est la recherche de la vérité, est un bien humain. Je ne peux pas faire l'économie de la recherche de la vérité. Celui qui fait l'économie de la recherche de la vérité, eh bien, il se mutile. Exactement comme celui qui fait l'économie de l'amour à l'égard d'une personne humaine. Il y a une mutilation fondamentale dedans. Et donc, sa personne humaine ne sera pas pleinement développée. Il y aura quelque chose qui ne se fera pas. Je peux maintenant poser encore, comme troisième dimension, le point de vue, l'homme est parti de l'univers, mais l'homme est capable de transformer l'univers. Il transforme l'univers par son travail. C'est l'homme face à l'univers. Troisième grande dimension. Je ne peux pas non plus faire l'économie de ça. Un homme qui ne travaille pas et qui n'est pas engagé dans son travail, il y a quelque chose de sa personne humaine qui n'est pas développé. L'homme doit dominer l'univers, si vous voulez. Le dominium à l'égard de l'univers, c'est par le travail, la transformation de l'univers, pour faire que l'univers devienne un lieu habitable. Un lieu qui prolonge l'âme. Et la personne humaine est engagée dans le travail. C'est important de comprendre cela. Ce n'est pas du tout quelque chose d'accidentel. quelqu'un qui ne travaille plus, qu'il s'agisse d'un travail intellectuel ou un travail manuel, peu importe, hein, le travail scientifique, le travail, c'est un travail. Le travail fait partie de la dimension essentielle de l'homme. Je mettrai une quatrième dimension. Ce n'est pas parce qu'elle est avant le point qu'elle est petite. Hein. Pour la mettre là, si vous voulez, cette quatrième, comme ça, vous ne la comprendrez pas. Parce que ça fait partie aussi du dépassement de la personne humaine. C'est l'attitude religieuse. L'attitude religieuse. La quatrième dimension. Nous reviendrons sur tout ça. Je reprendrai d'une autre manière après. Je voudrais que vous compreniez combien le point de vue de la personne humaine implique toutes ces diverses dimensions. Eh bien, la dimension religieuse, par où l'homme est capable de rejoindre son Créateur. Ceci fait partie du développement naturel de la personne humaine. Attitude religieuse. Oui. Nous reprendrons après. Hein. Je reprendrai après. L'attitude religieuse. Il faut bien comprendre qu'au plan philosophique, le philosophe peut découvrir qu'il y a dans l'homme une possibilité de découvrir l'absolu qui est au-dessus de lui. Je sais très bien qu'aujourd'hui, c'est très difficile à affirmer. Hein, ça, c'est sûr. Vous en direz, l'attitude religieuse, c'est confessionnel. Non. L'attitude religieuse n'est pas confessionnelle. Elle est naturel avant d'être confessionnel. Elle peut être confessionnelle. Oui, dites.
Oui. Est-ce que c'est universellement reconnu?
Ah, c'est universellement reconnu. Est-ce que c'est un critère de vérité? Je vous réponds philosophiquement. Venez. Bon. C'est reconnu par des grands philosophes. Des grands philosophes païens n'ont pas hésité de le dire. C'est parce que nous vivons aujourd'hui dans un contexte idéologique qui supprime l'attitude religieuse qu'on n'ose plus le dire. Mais ça a été affirmé pendant des siècles et des siècles, même Descartes. Tous avant les grands athées contemporains. Donc avant 150 ans, tout le monde l'affirmait. C'est depuis 150 ans que les athées contemporains ont pris possession du climat dans lequel on est, qu'on n'ose plus le dire. Vous voyez ? Qu'on n'ose plus dire que la recherche de l'homme dans toutes ses dimensions, parce qu'il est un esprit, il dépend d'un autre esprit premier, qui est le Créateur. Et qu'il est capable, par sa propre recherche philosophique, d'atteindre cet être absolu. S'il atteint cet être absolu, il doit tout de suite avoir dans sa propre vie un conditionnement qui soit relatif à cet absolu. Ce conditionnement religieux, c'est-à-dire le point de vue de l'adoration. Les philosophes grecs, hein, puisque j'en sais de la philosophie grecque, les philosophes grecs, quand ils faisaient de la philosophie, et qu'ils abordaient un sujet particulièrement difficile, disaient à leurs disciples, nous allons prier et invoquer les dieux pour pouvoir aller jusqu'au bout de la recherche de la vérité. Aujourd'hui, évidemment, ça ne se fait plus. J'avais un de mes amis qui était professeur en Sorbonne, il est mort maintenant, et qui faisait un cours sur Dieu. C'était sitôt la guerre. Il pouvait le faire parce qu'il revenait de captivité. À ce moment-là, on avait tous les droits. Tu vois? Alors, revenant de captivité, il avait le droit de faire un cours sur Dieu. Alors, il m'a dit, j'ai eu tout de suite des réactions violentes d'un certain nombre de marxistes qui m'ont dit, vous êtes dans un domaine qui n'est pas philosophique. Pardon. Comment voulez-vous comprendre Descartes? Comment voulez-vous comprendre Spinoza? Comment voulez-vous comprendre Hegel? Comment voulez-vous comprendre tous les Grecs si vous ne parlez pas de Dieu? Tous ces philosophes en ont parlé. Tous. Et pas au nom de la religion, pas au nom de la révélation. Ils en ont parlé. Le philosophe est en phase de tradition religieuse. Ça fait partie d'une culture. il doit se demander si ces traditions religieuses ont un fondement philosophique. Et face à ces traditions religieuses, parce que les traditions religieuses ne sont pas philosophiques, elles sont des traditions religieuses, comme les traditions familiales ne sont pas philosophiques, le philosophe doit se demander si ces traditions religieuses sont fondées, ou bien si ce sont des mythes. Est-ce que ce sont des mythes, des fables, ou est-ce qu'il y a quelque chose de sérieux ? Et donc le philosophe doit se poser la question, Dieu existe-t-il ? Il doit se poser la question. Bon, il répondra différemment. Je me souviens, je vous donne cette petite anecdote parce que c'est intéressant justement à comprendre. À Fribourg, ça fait partie de mon enseignement. J'ai comme parmi l'enseignement, j'ai le problème de Dieu dans la philosophie, ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresse beaucoup. Et donc, je voyais jusqu'aux ces dernières années, parce que maintenant, vous voyez, même à Fribourg, on n'ose plus de le dire. Donc on a dit non, on ne va plus mettre le problème de Dieu, on va dire simplement métaphysique, c'est tout. Alors on mettait le problème de Dieu avant, on parlait d'une théologie naturelle. Et alors, vous voyez, enseignant à Fribourg, on a toute espèce de gens, on a une majorité de chrétiens, c'est évident, mais on a quand même toujours des gens qui viennent un peu de partout. J'avais, sans le savoir, j'avais une petite Allemande, une étudiante, qui venait, elle, d'un milieu tout à fait athée. Elle me l'a dit au moment de l'examen. Quand elle a passé cet examen sur la philosophie de Dieu. Alors, juste avant, elle m'a dit, mais je suis athée, est-ce que ça est dérangeant pour passer cet examen ? J'ai dit non. La seule chose que je vous demande, c'est d'être intelligente. Je dis ça. Si vous êtes athée, montrez que vous soyez intelligente en étant athée. Ah, c'est très intéressant. Je ne vous demande pas du tout de dire que vous êtes... Je ne vous demande pas du tout de répéter mon cours, c'est pas ça. Mon cours, c'est uniquement pour vous éveiller. Alors, c'est très curieux. Alors, elle a passé cet examen, c'était pas trop mal, c'était bien. Et puis, au moment de la licence, elle peut choisir telle ou telle branche. Elle est venue dire, je choisis le problème de Dieu. Et là, je choisis librement. Et puis après l'examen de licence, elle m'a dit... Je tiens à vous dire, je viens d'un milieu athée d'Allemagne, je vais retourner dans ce milieu athée. Je ne dis pas que je crois en Dieu. Je ne dis pas que vous m'avez absolument convaincu. Mais vous m'avez montré que c'est très difficile d'être athée. Je ne sais même pas si on peut l'être avec l'intelligence humaine. Et qu'il y en a priori. Vous avez insisté quand vous avez montré que tout athéisme repose sur un a priori affectif. Je crois qu'il y a une position philosophiste d'agnostique. Et je crois que quand on est athée, il y a un a priori affectif. Et j'avais beaucoup insisté là-dessus. Parce que je crois très fort que c'est important. C'est qu'il y a un a priori affectif. Et alors elle m'a dit, j'ai très bien compris. Eh bien je reviendrai et je leur dirai, vous êtes des imbéciles. Vous dites que vous êtes athée, vous n'êtes jamais posé le problème de Dieu. Comment voulez-vous être désordé ? Donc vous l'êtes purement d'une façon affective. Et exactement comme, si vous voulez, il y a un traditionnalisme chrétien où on dit, oui, chrétien, on n'a jamais réfléchi dessus. Notre intelligence n'a jamais réfléchi, donc on n'est pas vraiment chrétien. Donc, et il y a un athéisme exactement de la même manière. C'est les deux opposés. Alors, je crois que c'est très important de comprendre dans notre monde d'aujourd'hui que la personne humaine poussée jusqu'au bout implique la découverte d'un être premier que nous appelons créateur, selon les traditions religieuses, et que le problème de l'attitude religieuse fait partie essentielle du problème de l'homme. Que tout le monde n'y arrive pas, pour répondre à votre question. Je suis d'accord. Mais on doit demander le respect de cette dimension. Tout le monde n'y arrive pas, mais le respect, on doit le demander. Il existe des personnes qui, de fait, par leur intelligence, ont découvert ça. Et qui, dans leur recherche philosophique, ont découvert. Et donc, ça fait partie de la dimension de la personne humaine, l'attitude religieuse. Se poser le problème de l'existence de Dieu. Voir jusqu'où l'intelligence humaine peut aller. Alors, ceci nous permet, vous voyez, de découvrir, si je mets maintenant le parallélisme, je vais faire deux choses maintenant, après vous avoir montré très rapidement, la complexité de la personne humaine. On va essayer de l'unifier maintenant. Il y a une complexité de la personne humaine. Oui. Et je crois, je donnerai la vérification tout à l'heure, la complexité de la personne humaine, c'est que ce n'est pas simple du tout. Il y a en effet en nous quelque chose de radical et de profond, et qui est notre autonomie substantielle. il y a la découverte de la finalité, l'homme est fait pour aimer, fondamentalement.
Ça, c'est une hypothèse.
Non.
Comment vous le...
Mais l'expérience. Mais l'expérience. Vous n'avez jamais aimé dans votre vie ?
Ah non, c'est l'expérience.
Ah, c'est l'expérience. Ah, je vous dis que je donne des conclusions, je ne peux pas faire plus. Hein. Je vais reprendre autrement. Voyez, tout repose sur l'expérience. Il y a une expérience de l'amour dans la vie humaine. Vous voyez ? Celui qui n'a jamais fait cette expérience, bon, c'est dommage. Ce n'est pas parce qu'il y a quelques êtres humains qui n'ont jamais fait l'expérience d'une chose que je dis que c'est ça qui est humain. Je cherche la dimension et les dimensions de l'homme et de la personne humaine. Vous voyez ? À partir de l'expérience. Il y a l'expérience du travail, il y a l'expérience de l'amour d'amitié. Ça, c'est évident.
C'est typiquement philosophique, ça.
Typiquement philosophique. Typiquement philosophique. C'est pas du tout à partir de ma foi. C'est typiquement philosophique, ça. L'expérience humaine. Je fais appel à l'expérience humaine. Vous voyez ? Et quand je dis... l'astitude religieuse, je dis que c'est le dernier aspect que je pose, ayant découvert qu'il existe nécessairement un être premier, que les traditions religieuses appellent Dieu et le Créateur, je découvre que l'homme a en lui cette nostalgie fondamentale de l'attitude religieuse. Et que le pire des refoulements, c'est de supprimer ça.
Est-ce que c'est Dieu singulier ou Dieu comme elle, le panthéisme et tout ça finalement.
C'est Dieu, l'absolu. L'absolu.
L'absolu.
Je chercherai après quel est cet absolu. Vous voyez, ça là, l'enquête. Je voudrais essayer de voir jusqu'où je peux aller. Mais c'est l'absolu. Il y a un absolu que les traditions religieuses appellent Dieu. C'est pour ça que je dis toujours que le mot Dieu n'est pas philosophique. C'est les traditions religieuses qui nous parlent de Dieu. Vous voyez, c'est les traditions religieuses. Les traditions religieuses existent. Un philosophe doit tenir compte de tout ce qu'il y a dans l'homme. Il y a des hommes actuellement qui vivent de traditions religieuses. Je n'ai pas le droit de faire cette économie et de dire a priori ça ne signifie rien du tout. Mais pas du tout. Il faut essayer de voir. C'est ça le problème de Dieu, vous voyez. Alors si je faisais le problème de Dieu, évidemment, vous, ça dure toute une année, hein, philosophiquement. C'est vrai, c'est très long. C'est une démarche lente. Je suis obligé ici de donner le résumé, hein, les conclusions, si vous voulez, au point de vue philosophique. Et je crois que c'est intéressant. C'est intéressant de voir que tout ce que je vous donne là repose sur l'expérience. Je peux vous le prouver par le mode d'expérience. Et que progressivement, nous arrivons à ces dimensions de l'homme. Et nous arrivons... Oui, dites.
Oui, bien sûr, mais je n'ai pas du tout parlé. C'est le plaisir, en fait. Le dépassement, le développement d'intelligence, le contact de l'autre, c'est quand même toujours la recherche, là.
Ah mais oui, le plaisir est secondaire. Le plaisir ne fait pas partie de la structure de l'homme.
Enfin, je suis étonné de ne pas le trouver dans le schéma. C'est un des moteurs de la nature humaine.
Voyez,
cherche à s'épanouir.
Bon. Alors voyez pourquoi je ne l'ai pas donné. Parce qu'au point de vue psychologique, vous mettez le plaisir comme finalité. Et le plaisir est une conséquence. Celui qui cherche le plaisir ne le trouvera jamais. Je suis au point de vue philosophique, hein, si. Je ne suis pas au point de vue psychologique. Le psychologue fait qu'il cherche les propriétés et le philosophe, lui, cherche les principes.
Mais ça, c'est le conditionnement.
C'est le conditionnement. C'est une propriété, c'est une conséquence. Vous voyez ? Le plaisir, il existe tout le temps. Le plaisir, il existe dans l'ordre de l'amour comme conséquence. Il existe dans l'ordre de la connaissance. Il existe dans l'ordre du travail. Le plaisir, il existe à toutes les dimensions. Dès que vous faites une activité dans laquelle vous êtes épanoui, c'est le développement de l'homme. Le développement amène comme conséquence le plaisir, la joie. Vous êtes respiré, hein, respiré à plein poumon, au point de vue de votre corps. Soyez en pleine santé, vous êtes euphorique. Oui, c'est une conséquence, c'est pour ça que ce n'est pas une structure de la personne humaine. Ce que je cherche ici, c'est les structures de la personne humaine. Hein. C'est les structures philosophiques de la personne humaine. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai donné avant le point de vue psychologique. Vous voyez, dans le point de vue psychologique, vous voyez les sentiments du moi. Alors, les sentiments du moi, bon, c'est ce que je ressens. Tandis qu'ici, j'essaie de comprendre les structures de la personne humaine au niveau philosophique. Alors, évidemment, ce que je vous donne là présuppose toute une analyse philosophique, lente, progressive, dont je vous donne les résultats. Vous voyez, je crois que nous pouvons les saisir assez facilement à partir de nos diverses expériences. L'expérience de notre unité, de notre autonomie. Vous voyez, bon, nous avons l'expérience de la complexité de l'unité qui est en nous. Nous avons l'expérience en nous de ce dépassement dans l'amour. Quand nous découvrons quelqu'un que nous aimons. Nous sommes au-delà de nous. Cet amour implique une connaissance, donc une certaine recherche de vérité. Nous avons en plus cette possibilité de dépasser l'univers, du moins de modifier l'univers par le travail, la transformation de l'univers. Et nous avons enfin la dernière dimension, la dimension la plus intérieure. C'est la dimension la plus intérieure. C'est la dimension par où nous retrouvons notre source. Oui, et nous remontons à notre source, c'est de fait l'attitude religieuse qui est l'adoration. L'adoration est un problème proprement humain. Ça fait partie d'une dimension proprement humaine. L'adoration. C'est quelque chose dont on parle dans les traditions religieuses, mais que le philosophe peut découvrir. Oui.
Excusez-moi, mais alors une question. Pour quelle raison limiter la finalité à une de ces dimensions, le dépassement? Pourquoi la finalité ne sera pas applicable à la transformation de l'univers, à l'attitude religieuse, à la connaissance?
Mais tout à fait d'accord, venez, je le dis là parce que c'est la première découverte de la finalité. C'est la première. C'est là où nous découvrons en premier lieu la finalité. Et il y a une finalité dans l'adoration. Il y a une certaine finalité dans la recherche de la vérité. Il y a une certaine finalité dans le travail. J'ai dit une certaine. J'ai voulu philosophiquement, toujours au point de vue philosophique, préciser le premier moment où nous découvrons la finalité. Oui. Et le premier moment où nous découvrons la finalité, c'est dans cet amour à l'égard d'une personne humaine. Oui. Je crois que ça se fait beaucoup plus vite. L'enfant qui aime sa mère, il découvre quelque chose qui le dépasse. Oui. Et c'est pour ça que c'est si terrible quand la mère n'aime plus suffisamment l'enfant, c'est source d'angoisse ensuite. Oui. Parce qu'il y a, un manque d'amour qui n'a pas été donné. Ensuite, le gosse qui aime des amis, vous voyez, l'amitié. Et puis ensuite, profondément, entre l'époux et l'épouse, la découverte d'un amour d'amitié. Et puis à côté de cet amour-là, toutes les amitiés que nous découvrons plus ou moins profondes. Vous voyez, c'est ce qu'il y a de plus proche du cœur de l'homme, ça, et de la volonté de l'homme. Découvrir la vérité comme finalité, c'est très rare. C'est très rare. Quelques-uns découvrent la vérité comme finalité. Tandis que l'amour, c'est ce qu'il y a de premier. Et c'est vraiment là où je découvre le dépassement. Parce que même l'amour de la vérité, est-ce qu'il y a un véritable dépassement? Ça, c'est très délicat. C'est très délicat. C'est très, très difficile de voir le dépassement qui existe dans l'amour de la vérité. Je peux rechercher la vérité pour moi et pas me dépasser. C'est pour ça que je prends là exprès. C'est le premier dépassement parce que c'est la première réalité que je touche. Je touche l'autre. Vous voyez, dans la personne humaine, je touche l'autre. C'est l'autre que je touche en premier lieu. Et l'autre implique toujours être mon bien, donc ce qui me permet de me dépasser. Et c'est dans ce sens-là que je le mets cela, vous voyez. Ce qui n'exclut pas les autres. Les autres, c'est tout un problème très important de voir où y a-t-il une véritable finalité pour l'homme. Est-ce que la gloire est-elle une finalité? Je ne vais pas parler de la gloire ici. On pourrait parler de la gloire au point de vue politique. L'action politique, elle est dans ce sens-là. Alors l'action politique, elle fait quand même une personnalité humaine. Et l'action politique, dans quelle mesure va-t-elle permettre à l'homme d'être parfaitement homme? Oui. Alors là, on mettrait une autre dimension, je pourrais très bien la mettre ici, de prime. L'action politique. Je suis tout à fait d'accord, l'action politique. Oui, c'est la même chose. Politique communautaire, sociale. Je prends politique au plan philosophique parce que le politique assume le social. Vous voyez ? Assume le social, assume tout. Vous voyez ? Et alors c'est lié. Si vous voulez, en réalité, il faudrait la mettre, le politique, parce que le politique fait une petite synthèse, nous le verrons, entre l'amour d'amitié et le travail. Il y a les deux, vous voyez ? Alors ça ferait trois primes, en réalité. Ça fait 3 primes. Mais c'est vrai qu'il y a là tout un problème. Et alors, à côté de ce problème de la personne humaine politique, il y a tout le problème de la gloire. Mais quel analogue avec le plaisir, oui, qui est une conséquence. C'est pour ça que ce n'est pas une vraie finalité. C'est une conséquence, c'est quelque chose qui vient s'ajouter. Alors, ce qui me semble intéressant ici, c'est d'essayer de découvrir la structure de la personne humaine au plan philosophique, vous voyez. Et alors, au plan philosophique, j'ai ces différentes structures, l'autonomie, je le mets bien ici, l'autonomie, le dépassement de l'homme dans l'amour, le point de vue de la vérité, dans le point de vue de l'intelligence, le point de vue du travail, et puis le point de vue religieux. Voilà ce qui me semble être les grandes structures. On va le reprendre d'une autre manière, si vous voulez, pour que vous voyez mieux. Mais avant, je vais revenir sur ce que je vous disais au point de vue psychologique. Autonomie, valorisation, et puis sécurité. Est-ce que par là, j'assume ce qui est donné au point de vue psychologique ? C'est ça qui est intéressant à voir. Bon, je l'assume, l'autonomie, c'est facile. L'autonomie est vraiment la chose fondamentale de la personne humaine. L'autonomie. C'est vraiment la chose fondamentale. C'est l'axe premier. Une personne demande d'avoir son autonomie. Bon, on verra comment on peut acquérir l'autonomie, ça c'est autre chose. Mais demande l'autonomie, ça c'est sûr. Deuxièmement, on voit le point de vue de la sécurité. La sécurité, elle vient d'où ? La sécurité, elle vient de la recherche de la vérité. C'est la recherche de la vérité qui vous donne la plus grande sécurité. C'est le point de vue de l'intelligence qui vous donne la sécurité. Et puis le travail, ça c'est sûr, l'efficacité, mais c'est second. C'est d'abord la vérité. Et la valorisation, c'est l'amour. Notre valeur provient de l'amour. Vous voyez que l'avantage de ça, c'est qu'à la place de les donner comme droits qui sont commandés par le temps, le développement du temps, le présent, le passé et le futur, au niveau psychologique, je n'ordonne pas. Et je ne peux pas ordonner. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de finalité. Au plan philosophique, je peux ordonner ces différents facteurs. Je vois que l'axe fondamental de la personne humaine, c'est l'autonomie. Mais je vois que l'autonomie, si elle est repliée sur elle-même, elle empêche la personne d'être parfaitement elle-même. Donc, il y a la finalité. Et la finalité, je l'atteins dans l'amour. Et je l'atteins en découvrant une personne que j'aime. C'est en découvrant l'autre capable d'être mon bien que je suis finalisé. Que je suis finalisé numéro 1, si vous voulez. Numéro 1, prenez bien. Que je suis finalisé pleinement. Quoi ? Je suis tout à fait d'accord.
Connaissance, travail, finalement, tout à fait. Elles sont toutes dans l'ordre des valeurs, tout à fait. Soumises à la première.
À la première. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Tout à fait d'accord. C'est pour ça que j'ai dit première et dernière, mais les premières. C'est la finalité la plus forte. C'est le dépassement. C'est par là où l'homme se dépasse. L'homme se dépasse vraiment en aimant. Or, la finalité, c'est le dépassement. C'est le propre de la finalité, c'est de se dépasser, c'est d'atteindre l'autre. Vous voyez ? Tandis qu'au contraire, il n'y a pas de véritable dépassement dans la recherche de la vérité, mais il y a une sécurité. L'homme, en découvrant la vérité, et plus il découvre la vérité, plus il a une sécurité. Vous n'avez qu'à réfléchir sur ce simple fait qu'il y a beaucoup de domaines où nous sommes dépendants de l'opinion des autres. Dans la mesure où on est dépendant de l'opinion des autres, parce qu'on n'a pas fait son enquête soi-même, on n'est jamais absolument sûr. Il y a une sécurité ébranlante.
On n'est pas autonome non plus.
On n'est pas autonome non plus. Ça, d'accord. Les deux se tiennent. Mais ça, c'est la clé. Oui, mais l'autonomie a quelque chose de beaucoup plus fondamental que la sécurité. Beaucoup plus fondamental. C'est pour ça que je mets le point de vue de l'intelligence. Et l'intelligence va augmenter votre autonomie, mais elle va être source de sécurité. La découverte de la vérité. Vous voyez ? Et puis alors, le point de vue du travail, la psychologie ne nous montre pas la place du travail, Mais les psychologues d'aujourd'hui, de plus en plus, montrent que c'est le travail qui est le facteur d'équilibre. Quelqu'un qui continue de travailler, eh bien, par le travail, redécouvre une possibilité de lutter contre l'angoisse. Quand on est trop angoissé, on ne peut plus travailler. Et donc, maintenir le travail, c'est ce qui va maintenir en moi une source de sécurité, une source de valorisation. Oui, c'est interdépendant, absolument. Tout se tient. Voyez, mais il y a un ordre. Voyez, et l'ordre, c'est justement le point de vue de la finalité qui permet l'idée. Et puis l'aspect fondamental qui est l'attitude religieuse.
La finalité qui permet le dépassement, qui permet l'unité.
Oui, exactement. L'homme n'est un qu'en se dépassant.
Il faudrait donner des moyens.
Non, pas des moyens.
C'est là que c'est vrai.
Pas des moyens. Je ne peux pas dire que l'autonomie est un moyen. Je ne peux pas dire que la vérité est un moyen.
L'autonomie est bien un résultat, peut-être
non.
Le résultat.
Non.
C'est connaissant de la vérité.
Non,
la vérité.
C'est quelque chose de substantiel. C'est l'âme spirituelle. C'est quelque chose de substantiel. C'est pas un moyen. Faut pas. Hein, parce que tomberez, si vous tomberiez dans, justement, en regardant le point de vue de l'autonomie comme un moyen ou le point de vue de la vérité comme un moyen.
Non, pas comme un moyen, comme un résultat.
C'est pas un résultat. C'est une source.
Pour toi, elle se définit par rapport aux finalités.
Oui, mais elle est source. Qu'est-ce qui aime ? C'est vous qui aimez. Et donc, notre autonomie, elle est source de votre amour.
Oui, mais elle n'existe qu'à partir du moment où il y a des...
Non, elle existe avant. Elle existe avant. C'est pour ça que je dis quelque chose de substantiel, l'âme spirituelle. Alors, c'est la métaphysique. Il faut rentrer dans la métaphysique.